Radio Okapi.
Moitié, moitié.
Alors aujourd'hui, nous allons parler du tourisme local avec Madame Marie-Ange Lundu, parce que c'est également un apprentissage de l'amour de la patrie. N'est-ce pas, Madame Marie-Ange?
Bien sûr.
Alors, vous êtes la coordonnatrice de Token d'Africa, une plateforme de développement et de promotion du tourisme, bien sûr. Et vous avez un projet appelé Mon Pays, Mon Héritage. Et c'est pour promouvoir justement le tourisme local. Bonjour Madame Marie-Ange.
Bonjour Madame Nicole.
Voilà. En tout cas, la moitié de la population vit dans la pauvreté.
Je dirais oui et je dirais non. Pourquoi? Parce que je peux justifier ma réponse en disant que aujourd'hui, les plus grands consommateurs de brassicoles, les plus gros clients, ils sont dans des coins où nous pensons qu'il n'y a pas d'argent. Donc, si nous prenons l'exemple de la Tchangou, par exemple, si on passe en ce moment-là, même maintenant, si nous voulons passer par le couloir Kimbuta, vous allez trouver les nombres de casiers de boissons qui sont vendus. Et d'ailleurs, je crois que les brassicoles l'ont compris et c'est comme ça qu'ils font les actions toujours dans ces coins-là. Si vous partez à Kanlouk en ce moment, malgré que nous pensons qu'ils n'ont pas de moyens, mais ils ont l'argent pour acheter de la boisson. Donc, il y a quand même le moyen pour que les gens fassent le tourisme local.
Alors, vous serez d'accord avec moi que bien connaître son pays, c'est aussi du patriotisme.
Je suis déjà passionnée de parler de ça à tout moment parce que on ne peut vendre que quelque chose qu'on connaît. On ne peut parler du bien que de quelque chose qu'on connaît. Je vais donner un exemple plus simple. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de procès au tribunal, tout simplement parce que les gens se battent pour les héritages de terre. Oui. Ça peut être la maison de parents et tout ça. Tout simplement parce qu'ils connaissent la valeur de terre ou de maison que les parents ont laissée. Et donc, si nous ne connaissons pas la valeur du pays, nous ne pourrons jamais aimer ce pays. Pour aimer le pays, nous devons d'abord savoir pourquoi Dieu a fait, si on doit parler de Dieu comme ça, pourquoi Dieu a fait que nous puissions être Congolais et non pas, je sais pas, Français, Belges ou Américains. Donc, le fait de connaître son pays vous permet d'aimer ce pays-là et vous permet de corriger s'il y a erreur quelque part. Parce que avec avec tout ce qui s'est passé dans notre pays pendant des décennies et des décennies, ça a développé aux Congolais le dégoût du pays. Les dégoûts, c'est qui crée d'ailleurs aujourd'hui, j'appelle ça déjà, d'abord, on a un problème de culture, donc l'exode rural est énorme. Il y a plein de gens qui sont au village, qui sont venus, tout simplement parce que nous ne partons pas leur rendre visite. Et puis après, on se retrouve avec la situation du tourisme émetteur qui bat son plein, c'est-à-dire les Congolais qui veut à tout prix voyager à l'étranger du pays ou rien. C'est-à-dire les gens vendent leurs parcelles, les gens font n'importe quoi pour se retrouver à l'étranger.
Parce que là-bas c'est bien, c'est beau, c'est propre, alors que tu peux emmener tout ça chez toi.
Oui, mais parce que aussi ça va de l'éducation. Nous à Token d'Africa, depuis qu'on a mis ce programme en place, on a commencé à sensibiliser surtout les enseignants et les élèves sur l'éducation touristique du pays. Parce que dans notre programme éducatif, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une branche qui parle de l'amour de la patrie. Je crois qu'il n'y a pas une branche. Il n'y a pas une branche qui parle de l'environnement, du respect de l'environnement. Il n'y a pas une branche qui parle de nos ressources. Aujourd'hui, si vous partez à n'importe quel pays, vous irez aux États-Unis avant d'avoir la citoyenneté. On vous donne 120 questions. Je crois que ces gens qui ont demandé la citoyenneté le savent. 120 questions qui ne parlent que de leur pays. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire des formations pour connaître le pays avant d'avoir même le document du pays. Alors que chez nous, on est congolais, il y a même des congolais qui sont fiers de ne pas parler leur langue nationale.
Bizarre, comment ça, je trouve ça quand même bizarre, des parents qui interdisent à leurs enfants sous prétexte que le français par exemple, c'est une langue de l'enseignement, donc les enfants ne peuvent même pas réfléchir en lingala.
Ça c'est un sérieux problème et ça fait partie la plus importante à l'éducation nationale. Pour le peu de temps que j'ai quand même eu à circuler dans le monde, dans d'autres pays, on commence par enseigner aux enfants le patriotisme et après, donc on les enseigne leur patrie, leur nation, après on les enseigne les autres. Nous voulons que le cours de tourisme entre dans le programme national. Ça permet aux gens, vraiment, ça m'est arrivé une fois, je me suis retrouvée dans une conférence, dans une église, on m'avait invitée pour parler devant les chrétiens. Et j'ai posé la question aux chrétiens qui étaient là, si quelqu'un connaissait Papa Wemba. Les gens, les pasteurs et les serviteurs de Dieu, ils se sont reniés de dire qu'ils connaissent pas Papa Wemba, alors que c'est l'image de la culture de la rumba congolaise. Et ce n'est même pas de la rumba. Le premier film qui a eu, parmi les premiers films africains qui ont fait du tabac dans le monde, c'était La vie est belle, où on a vendu la culture de la RDC de manière la plus intense que possible. Que la femme, après avoir eu son diplôme, elle devait s'habiller en deux pagnes. Donc, c'est toute une histoire. Mais les chrétiens n'ont pas voulu dire qu'ils connaissent Papa Wemba. Parce que pour eux, on les a vendu l'image que quand un musicien ne chante pas pour Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit côtoyer, par exemple. Mm-hmm. Et donc, on est dans ce faux-là. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ne peuvent pas aller visiter Kamba. Tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils sont chrétiens, qu'ils peuvent pas aller en Kamba. Alors que nous avons des étrangers qui viennent en Kamba parce qu'ils se disent que Simon Kimbang fait partie des grands prophètes dont la Bible a parlé. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont détruit notre culture, qui ont détruit notre tradition. Aujourd'hui, par manque de cette éducation touristique, nous retrouvons avec les gens qui ont la capacité de dire « Mboko yoba te kango to kabulambong ».
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi et nous sommes en train de parler de l'éducation au tourisme local comme facteur de l'amour de la patrie.
Alors, comment l'éducation au tourisme local peut-elle favoriser l'émergence du patriotisme dans notre pays?
La première d'apport que l'éducation touristique apporte, c'est, comme je dis, la connaissance du pays. Déjà dans le programme que nous avons sur la promotion du tourisme domestique, nous parlons de pays et de ses ressources. C'est-à-dire déjà au départ, c'est comme les Arabes qui savent qu'ils ont le pétrole, donc la plupart d'Arabes ne travaillent pas parce qu'ils savent qu'on a le pétrole et on est récompensé par le fait que nous sommes Arabes. Et c'est la même chose qui devait normalement se passer au pays, au Congo, en commençant par nous parler de tous nos minéraux. Il m'est arrivé dans une conférence avec les Américains où tout le monde avait un iPhone. J'ai dit, ben écoutez, est-ce que tout le monde peut soulever son iPhone? Tout le monde a soulevé et j'ai dit, écoutez, vous devez dire merci à la RDC. Nous sommes arrivés à un niveau où le Congolais a honte de dire, d'admettre qu'il est Congolais. D'où les gens admettent d'avoir 2-3 nationalités, 4-5 passeports, parce qu'il veut pas qu'on le reconnaisse comme Congolais. À partir du moment où un Congolais sait que c'est grâce au coltan de la RDC que le monde de la technologie existe, je crois que ça crée une fierté personnelle. Ça, c'est déjà le premier pas. C'est-à-dire, les enfants à l'école devaient être capables de connaître le coltan, de le voir, de visiter les sites où il y a des coltans, de connaître de l'or, savoir qu'il y a l'or au pays, il y a le diamant. À l'époque, je crois qu'à la Fikine, les gens avaient la chance de visiter les minéraux du pays.
Oui.
Les enfants doivent savoir que la RDC est parmi les rares de pays au monde qui contient beaucoup de lacs. Nous avons plus de, c'est vraiment la fierté d'appartenir à la race congolaise, parce que au-delà du fait que nous avons des ressources naturelles et ressources souterraines, nous avons des ressources humaines. La RDC est un pays de jeunes. Avec oui. cette jeunesse, nous avons la capacité de transformer ce pays s'il y a un peu de volonté. Et là, je ne parlerai même pas de la volonté politique, mais je parlerai de la volonté de communauté. À un certain moment, nous devons arriver... Moi, je me souviens, à l'époque, nos mamans nous racontaient des contes. À l'époque, moi, je me souviens qu'il y a un conte que ma mère nous a raconté. Il s'est resté ancré en moi. au point où jusqu'à mon âge ici, je ne peux pas voler la nourriture dans la casserole. Mais ce sont des contes du village, c'est des contes traditionnels. Mais c'était toute une éducation pour nous dire que si Évidemment. Vous volez la nourriture, vous ne savez pas si c'est la nourriture que maman a préparée, vous pouvez être en sorcellerie et vous pouvez perdre votre vie. Donc, il y avait des choses comme ça qui se faisaient à l'époque. Aujourd'hui, avec le vent ou la vogue du christianisme qui est venu avec les églises de réveil qui sont non contrôlées, aujourd'hui, tout le monde traite tout ce qui est traditionnel de sorcellerie.
De sorcellerie, pourtant...
Pourtant, c'est faux.
Moi, je me rappelle, ma mère me disait...
Je pense que nos ancêtres ont beaucoup donné des leçons. Ils écrivaient peut-être pas, mais ils ont été des personnes très intelligentes. Parce qu'aujourd'hui, même tout ce qu'on a comme produit pharmaceutique et tout, ça vient des plantes. Et les plantes, en RDC, ce ne sont pas des choses qui manquent. Il faut vraiment que nous arrivions à démontrer à cette génération que la vie n'est pas... L'Eldorado n'est pas l'Europe. L'Eldorado, c'est la RDC. Et moi, je dis toujours, la RDC, c'est le plus beau pays du monde. Ceux qui t'aiment pièce contre pièce. Parce que moi, j'ai des pièces. Comme je dis, on dit toujours que les gens voient tout souvent les infrastructures. Le pays peut se reconstruire en une seconde s'il y a la volonté politique de créer des infrastructures. Mais personne ne pourra venir déplacer le fleuve Congo. Ça, c'est notre richesse, c'est notre héritage auquel nous devons en être fiers. Aujourd'hui, le Tchad est en train de vouloir négocier vraiment pour avoir de l'eau douce qui vient de la RDC. Nous avons la rivière Oubangui. Nous appelons ça rivière parce que nous avons le grand fleuve. Mais de l'autre côté, au Centrafrique, on appelle ça fleuve Oubangui.
Fleuve Oubangui.
Parce que c'est très grand et c'est de l'eau douce. Au fait... La RDC est remplie. Si vous prenez la carte démographique de la RDC, je ne sais pas si on appelle ça démographique, pour voir les sources d'eau, la RDC a la couleur bleue.
Mais en fait, qu'est-ce que vous appelez tourisme local?
Tourisme local, c'est le tourisme qui est fait pour être consommé par les habitants de cet endroit ou de ce pays. Donc, c'est-à-dire, c'est... déjà que le tourisme, c'est un mouvement. Donc, c'est les déplacements des locaux vers d'un coin à un autre, mais dans le même secteur.
Pour aller découvrir.
Pour aller découvrir. Donc, je peux dire, si moi, je suis quinoise, je vais au Congo central, je ne fais pas du tourisme international, je suis dans le tourisme local, je suis dans le tourisme
domestique. Mais si ça peut nous aider à mieux connaître notre pays et à l'aimer, c'est une très bonne chose, mais on n'a pas le moyen. Le Congolais n'a pas de pouvoir d'achat.
Je dirais oui et je dirais non. Déjà, je vais prendre quelque chose, un exemple très simple. Je pense que toutes les filles en majeure partie en RDC, à Kinshasa surtout, ils ont tous des cabellos.
Et des iPhones.
Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Moi, je pense plutôt que ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de connaissance. Lorsque les gens comprendront, aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont à Zongo, parce que les gens ont commencé à en parler de plus en plus. Lorsque les gens comprendront qu'à tel endroit, il y a un tel merveille, les gens partiront. Et ils mettront les moyens de côté pour le faire. Et j'aimerais mentionner quelque chose, Madame Nicole. Mm-hmm. Le tourisme n'est pas fait pour tout le monde. Le tourisme se fait en préparation, c'est un plan. Même les Européens, le blanc que nous observons, que nous connaissons, ils ne voyagent pas d'un coup de tête. C'est-à-dire, pendant toute une année, ils font de savings, ils gardent quelque chose pour dire, cette année, nous irons aux îles des Caraïbes. L'année prochaine, nous irons aux Seychelles. L'année suivante, nous irons en Afrique du Sud. Donc, c'est pas quelque chose de coup de tête, mais ça, c'est lorsqu'il faut aller à l'étranger. Mais si nous prenons l'exemple de la RDC, moi, je suis à Kinshasa, le véhicule, le bus Kinshasa-Matadi, je crois que c'est $15. Et $15, si on va, comme je dis, à Couloir Kimbuta, les gens achètent des casiers de bière. Donc, si je vais aller visiter, les pics Cambien à Matadi, les pics Cambien, c'est le plus grand sommet de montagne qui se trouve à Matadi. Vous savez que Matadi est une ville montagneuse, oui. Mais il y a la plus grande montagne, donc le plus grand pic, c'est comme ça qu'on appelle ça pic Cambien, c'est vraiment le plus grand sommet de toutes les montagnes de Matadi.
Mais nous sommes, par exemple, à Kinshasa, qu'est-ce qu'on peut visiter à Kinshasa?
Oh, j'adore cette question. À Kinshasa, il y a tellement de choses à visiter. Kinshasa, lorsqu'on a fait on mène souvent des enquêtes sur terrain pour voir qu'est-ce qu'il y a comme site. Déjà, il faut savoir que les sites touristiques sont subdivisés en quatre catégories. Donc, nous avons les sites naturels. À Kinshasa, nous les avons. Nous avons le fleuve Congo, c'est un site naturel. Nous avons l'île Kudi.
C'est précisément où c'est ?
L'île Kudi, c'est vers Kintsuka, Pompage. Il y a une île qui est habitée, qui n'est pas développée, mais ça reste un site touristique. Donc nous avons l'île Kudi qui est naturelle. Nous avons, je prendrai les parcs de l'Antélé, qui est un site naturel. Nous avons les sites à Maluku, nous avons l'île Mbamou, je ne sais pas si vous avez entendu parler à Maluku. Ce sont des sites naturels. Nous avons la forêt primaire qui est la forêt de ma vallée, qui est encore un site naturel. Nous avons les bonobos. Ce sont des sites naturels et on peut en citer autant. Nous avons les sites historiques qui sont liés, par exemple, aux musées nationaux et tout ça. Nous avons les musées nationaux où les gens peuvent aller visiter. Il suffit d'entrer dans ces musées. C'est vrai que c'est un musée qui n'est pas encore complet. Mais quand vous entrez dans ces musées, que vous retrouvez l'histoire de votre pays, quand vous sortez, vous devez sortir quelqu'un de changé. Vous sortirez en étant fière. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'avoir le complexe d'être congolaise. J'ai arrêté. Je suis très fière et je ne crois pas que je changerai ma nationalité pour quoi que ce soit. Parce que j'ai vécu et j'ai vu ce que le Congolais a pu faire, nos ancêtres, ce qu'ils ont pu faire. Aujourd'hui, on porte les Gucci, on porte des Versace. Ce sont des tissus de chez nous, les tissus Kuba, que les Blancs ont pris, ils ont développé. Je crois que nous devons en être fiers. Et donc, Kinshasa, il y a des sites historiques où nous pouvons aller visiter. Nous avons les cimetières de Selemba, où nous avons les cimetières de Rwangaba. Nous avons
il y a un cimetière en Gaba.
Oui, le Rwangaba.
Ah, le Rwangaba.
Les Rwangaba.
Ça se trouve où c'est comme ça?
C'est dans la commune d'Ngaba, mais abandonné. Ça, c'est parmi les premiers tékés qui sont venus, qui ont négocié avec Stanley. On a l'histoire du site de Ngaliema, Mongaliema, qui sont des sites historiques que l'on peut visiter, mais que les gens n'y pensent pas parce que quand on part à l'école, on nous dit « il faudra aimer la France, il faut aimer la Belgique, c'est la Belgique qui nous a colonisés », alors que je crois que ça pouvait être le contraire. Et donc, nous avons des sites culturels, il y en a aussi nombreux. Nous avons par exemple, je donnerai un exemple, nous avons comment ça s'appelle, Académie des Beaux-Arts, c'est un site culturel où on peut aller apprendre. Nous avons les marchés des Bikeko, c'est un site culturel, même si lorsque vous partez, les vendeurs ne vont pas s'arracher parce qu'ils pensent que votre couleur ne va pas acheter. Donc nous avons plusieurs marchés des arts qui existent. Donc, le pays est merveilleux, en fait. Ça, pour moi, je peux vivre ici, en tout cas, aussi longtemps que je peux.
Oui, mais c'est ça le problème. Si les parents eux-mêmes, parce que moi, je parle d'éducation, si les parents eux-mêmes n'ont pas cette culture, donc comment je peux apprendre ça à mes enfants? Alors, ça, c'est l'école qui doit peut-être... prendre ce relais, mais est-ce que dans votre projet, parce que vous avez un projet, c'est le projet que vous appelez « Mon pays, mon héritage », vous avez donné des stratégies, par exemple, aux décideurs pour pouvoir promouvoir le tourisme local.
Oui, nous avons commencé déjà par des expéditions. Ça, c'était la partie clé de ce programme. C'était de pouvoir faire des expéditions, de démontrer aux Congolais que dans ton pays, tu ne dois pas avoir peur de voyager. C'était déjà ça le grand mur que nous avons cassé. Et parmi nos premières descentes, on a commencé par l'est du pays pour essayer de casser un peu les stéréotypes qui existent de gens de l'est, faut pas aller là-bas et tout ça, tout ce qui se dit autour de cette partie du pays. Donc, on a commencé par ces expéditions et nous avons rencontré tellement de difficultés que nous faisons toujours nos remarques et nos rapports, nous déposons aux autorités acquis de droit. Et après cela, nous sommes passés à la phase de l'éducation, donc des sensibilisations, où nous sensibilisons les gens dans tous les coins où nous arrivons. C'est-à-dire, si nous arrivons aujourd'hui au Kasaï, nous allons réunir les intellectuels déjà du Kasaï, donc des enseignants généralement qui sont dans ces contrées, les gens qui ont un peu d'activité liée au tourisme, pour leur parler du tourisme et du bien-être de leur contrée. Et ça leur permet, nous leur envoyons souvent, nous leur demandons de faire des descentes, de recherche de sites touristiques. Vous ne croirez pas, mais chaque province de la RDC est une merveille. Parce que lorsqu'ils viennent maintenant nous donner, lorsqu'on leur explique c'est quoi un site touristique et qu'ils nous amènent la liste, on est estomaqué parce que c'est énormément de sites touristiques qui sont à l'abandon. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment mentionner. Parfois, on a beaucoup de merveilles dans ce pays. C'est peut-être à cause de ça que nous n'avons pas la chance de développer le tourisme parce que nous avons trop de sites touristiques.
Comment ça?
On en a trop. On a plus de 2000 sites touristiques en RDC.
Waouh.
Plus de 2000. Et dans ce plus de 2000, nous avons plus de 80% de sites touristiques qui sont naturels. Donc, ça fait rêver. Et en même temps, on ne sait pas quoi toucher et quoi laisser. Et donc, après cela, nous passons vraiment à la phase où nous mettons la communauté ensemble. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les ministres n'auront pas le pouvoir de voir ou de connaître. Parce que la personne qui connaît le vrai problème qui se passe à Kisenso, c'est la personne qui habite Kisenso,
bien sûr.
Et donc, on ne peut pas dire... le bourgmestre même n'a pas peut-être la capacité de connaître tout le coin. Nous, on a fait des enquêtes, on a fait des études de marché sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et je vous assure qu'il y a des communes où, quand vous arrivez, vous posez des questions sur le nombre de quartiers. L'agent de la commune ne connaît pas. Déjà, les cartes communales n'existent pas. Donc, on arrive dans beaucoup de sites de communes. Est-ce qu'on peut avoir la carte de la commune? Non. Vont te compliquer demander des documents, mais c'est faux parce qu'ils n'en ont pas. Alors, on met ensemble les communautés parce que la force d'un quartier, la force d'une nation, c'est aussi les communautés locales. On leur met ensemble, on leur fait comprendre que si vous ne vous mettez pas ensemble, l'État ne viendra pas vous aider. Mmh. Et pour que vous puissiez résoudre vos petits problèmes, vous ne devez pas nécessairement attendre le don de l'État. Parce que le tourisme en lui-même, il a la capacité de renforcer les moyens financiers de plusieurs manières. Et donc, si moi, je suis individu, je viens arranger la route, l'État va m'arrêter parce que je ne peux pas aider l'État. Mais si nous sommes une communauté, nous sommes une force, nous pouvons couvrir les trous. Ça, j'ai vu ça à l'île d'Idju, Madame Nicole.
Oui.
L'île d'Idju, déjà, n'a pas de route. Donc, il n'y a pas de route pour faire des taxis. Les véhicules ne passent pratiquement pas. Mais les communautés d'Idju, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à créer des petits ponts. Parce que comme c'est l'île, donc les eaux traversent très souvent, ils ont créé des petits ponts en bois. C'est même pas des troncs d'arbres.
Des troncs d'arbres.
Oui, et ils ont créé des petits ponts. Ceux qui ont des quelques véhicules, 2-3, ils essayent de passer et les motos passent. Ça, c'est la force de la communauté. Mmh. Et c'est à ça que nous sommes en train de rebondir pour permettre à tout Congolais, quand tu aimes ton pays, tu peux faire quelque chose. Quand tu aimes ton pays, tu ne jettes pas les déchets sur la route. J'étais quand même choquée de voir parmi les véhicules officiels une fois quelqu'un qui mangeait les arachides, qui jetait la peau sur la route. J'étais choquée. J'ai quand même, parce que l'éducation, je pense que Madame Nicole, la sensibilisation, ce n'est pas seulement moi qui connais, qui pense que je dois faire mieux. Je dois aussi dire à l'autre qui ne connaît pas. Donc j'ai dû avancer et demander au monsieur, vous êtes dans un véhicule officiel, est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça? Heureusement, le monsieur était sympa. Ah non, excusez-moi, en tout cas, ça m'est perdu de vue, je ne le verrai plus.
Ben. il a perdu de vue qu'il était dans une voiture officielle.
Exactement, et qu'il ne devait pas jeter les saletés dans la rue.
Déjà, voiture officielle ou pas, jeter la saleté comme ça, c'est vraiment un acte incivique. Quoi.
Exactement. Et donc, c'est vraiment la procédure où nous sommes. Et nous continuons à sensibiliser dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de médias, pour dire aux gens que la RDC, c'est le plus beau pays du monde. Et quand je le dis avec beaucoup de bonheur. Je ne sais pas pourquoi, mais à force de faire des descentes dans des milieux peut-être, je dirais peut-être abandonnés, à force de voir ce que nous avons, nous nous sommes retrouvés au Bas-Congo. Nous sommes allés au Congo central maintenant. Nous sommes allés dans un site qu'on appelle le site de la chute de Massage. Ce qui m'avait choqué, c'était que nous, c'était pour la première fois de découvrir. Et le gardien du site nous disait, mais madame, vous savez que les gens ne viennent pas ici. Mais nous avons vu les jeeps des véhicules officiels des ambassades qui venaient justement pour la thérapie de la chute de Massage.
C'est-à-dire, quelle chute de Massage?
Je sais. À chaque fois que je donne les noms de sites, beaucoup de gens se disent, mais c'est où ce site-là? C'est au Congo.
Donc, tu es massé naturellement par l'eau.
Naturellement par l'eau. Et on dit que l'histoire raconte que c'était parmi, dans le pèlerinage de Papa Simon Kimbangu. Il y a beaucoup de sites où Papa Simon Kimbangu est passé. Ce sont des sites vraiment merveilleux. Il passait par là pour se laver, pour se reposer et manger. Et donc, dans ce site-là, il y a un grand caillou, une grande planche de rochers. C'est vraiment comme une planche de massage. Et quand vous venez, vous vous étalez calmement. Ne paniquez pas. Restez là, prenez votre temps. C'est toute une thérapie. Vous sortez de là, vous direz que je viens de me faire masser.
Et vous, qu'est-ce qui va vous masser? C'est l'eau?
C'est l'eau.
OK.
C'est la puissance de l'eau parce que la chute est vraiment très... je crois que c'est à 13 ou 14 mètres de hauteur. Donc, ça, lorsque l'eau tombe, comme c'est vraiment concentré, ça vous masse. Et il paraîtrait qu'il y a eu beaucoup de fois des gens qui sont partis, les chercheurs, ils ont voulu savoir d'où vient cette source d'eau. Personne n'a trouvé.
Il y a des merveilles dans mon pays.
Mais vous ne pensez pas que c'est tout un programme scolaire, ça?
Nous le pensons aussi, maman, mais les grands problèmes ici, c'est d'avoir accès aux décideurs. On a fait des plaidoyers, on a écrit pour demander à ce que nous puissions créer un bloc de gens qui connaissent le tourisme, des personnes éducationnelles, parce que nous ne sommes pas des pédagogues, nous sommes des explorateurs, nous explorons, nous aimons le pays, nous vendons l'image du pays, mais nous devons nous mettre ensemble avec des pédagogues pour que nous puissions mettre cela dans un programme selon les normes de la pédagogie. Et qu'on arrête, pour moi, j'aimerais vraiment, je prie le Seigneur qu'un jour, qu'on arrête de nous apprendre les empires qui n'existent même plus. On nous a parlé de Moscou, non pas Moscou, c'était quoi?
L'Empire byzantin.
Byzantin, on nous a parlé des dieux grecs, on nous a parlé de dieux romains. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? En Afrique du Sud, quand un enfant commence l'école, la première des choses, c'est l'hymne national. Elle doit connaître, la personne doit connaître l'hymne national, il doit le chanter, il doit l'aimer, le chérir, l'hymne national. Ce qui me choque au Congo, il y a des rendez-vous, des hommes politiques, des hommes d'État. On chante l'hymne national, il y a même des gens qui ont les culots de prendre leur téléphone. Peut-être même de reprendre.
Qui trouvent même que c'est un moment perdu.
J'ai toujours été choquée à chaque fois que je vois ça et je dis, si le pays ne voit pas ça, si les dirigeants ne voient pas ça, c'est déjà un problème pour le pays. L'hymne national, c'est notre anthème, c'est notre adoration, c'est notre raison d'être pour le Congolais. En Afrique du Sud, on va t'expliquer les couleurs du pays. Pourquoi le drapeau est comme ça? Pourquoi ce? Et on te parle de Mandela. Du coup, quand vous insultez Mandela, qui que vous soyez, on va vous tuer. On ne va pas vous laisser en vie. Mais en RDC, tous nos héros qui se sont battus peut-être pour le changement, nous avons Kimpavita qui est passé par là. Nous avons plein de noms de personnes qui ont travaillé pour l'émergence du Congo, déjà à l'époque, mais dont personne n'en parle. On ne les cite même pas dans les livres. Et ça, c'est fait sciemment. C'est fait sciemment. Aujourd'hui, pourquoi? Je me pose la question, pourquoi est-ce que beaucoup de gens préfèrent aller en Belgique? Tout simplement parce que la Belgique est venue vers nous et la Belgique nous a vendu son éducation. Nous avons besoin vraiment de renforcer l'éducation touristique dans toutes les écoles, dans tous les coins, dans les centres d'éducation, dans des églises. Pourquoi pas? Dans les mosquées, on doit parler du tourisme de la RDC. On doit parler de ce que nous avons et de ce que nous valons. Mettons juste en avant les valeurs que nous avons de la RDC.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invitée, Madame Marie-Ange Lundu, qui nous a parlé aujourd'hui du tourisme local, facteur de l'amour de la patrie. On peut aimer quelque chose qu'on connaît. Donc si on connaît bien notre pays, si nous voulons transmettre à nos enfants l'amour de la patrie, il faut les emmener découvrir les merveilles de notre pays. C'était donc sur ça que nous avons parlé aujourd'hui et nous allons nous quitter pour nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Parité et Famille. Au revoir et portez-vous bien.